De retour sur Canal Sud 92.2, canalsud.net, on est avec Thomas Daléry, maître de conférence à l'université du littoral Côte d'Opale de Dunkerque. Et Thomas Daléry, enfin tu as la parole, enfin tu vas pouvoir nous expliquer, mais qu'est-ce que c'est donc que le coût du capital ?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Alors bien sûr, je viens d'assez loin, je suis ici en terre toulousaine, mais je partage... avec joie, cette présence en studio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coût du capital ? Déjà, on a travaillé dessus avec plusieurs collègues. On était nombreux sur le dossier, on était 5-6 à travailler là-dessus. Et on a dû essayer, dans un premier temps, à la demande de la CGT, de clarifier les notions. Coût du capital, on parle souvent de ça. Qu'est-ce que c'est que ce coût du capital ? On a essayé de se plonger un peu dans une réflexion pour essayer de préciser les termes. Alors, il y a plusieurs significations à donner sur ce coût du capital. La première signification, c'est une signification, on va dire, économique, bête et méchante. Le capital, c'est ce qu'on appelle le capital productif. Donc les machines, pour faire simple, les infrastructures, les immeubles, ce genre de choses. C'est avec ça qu'on arrive à produire, en compagnie, bien sûr, du travail salarié. Donc ce capital productif, ces machines, ce stock de machines, pour résumer et caricaturer un peu, eh bien, il faut bien de l'acheter. Ça a un coût. Vous devez payer ce coût du capital à votre fournisseur de machines, à votre fournisseur de brevets, de logiciels, etc. Donc vous avez un premier coût, c'est ce coût économique, qui est pour le coup, celui-là, parfaitement légitime. Mais ensuite, vous avez un deuxième coût du capital, qui est lié à comment vous allez réussir à payer ce fournisseur de machines. Et pour payer ce fournisseur de machines, vous êtes obligé de trouver de l'argent, de trouver des fonds. Pour une entreprise, il n'y a pas à chercher 50 complications, il n'y a que deux possibilités pour trouver ces fonds. Soit elle les a, soit elle est obligée de les emprunter. Si elle les a, c'est ce qu'on appelle les fonds propres en comptabilité. C'est l'argent des actionnaires. Donc les apports initiaux, d'une part, les profits qui ont été laissés dans l'entreprise année après année, donc ce qu'on appelle l'autofinancement. Et ensuite, vous avez aussi les augmentations de capital éventuellement, si l'entreprise a décidé d'émettre de nouvelles actions à un moment donné sur les marchés financiers.
Oui, parce qu'en fait, un actionnaire, il achète les actions, c'est pour avoir de l'argent ensuite, mais il achète des actions et donc du coup, il donne de l'argent à l'entreprise. Donc effectivement, la somme de tous les actionnaires, ça fait l'argent de l'entreprise, c'est ça ?
C'est ça. Alors vous avez plusieurs possibilités. Dans un premier temps, il y a les apports initiaux au moment où l'entreprise est créée. Les actionnaires, les fondateurs de l'entreprise, laissent de l'argent dans la boîte. Et ensuite, vous avez la possibilité, quand l'entreprise est à court de liquidité, l'entreprise peut émettre de nouvelles actions. Et dans ce cas-là, vous avez éventuellement de nouveaux actionnaires qui vont verser au pot, ou ce sont les anciens actionnaires qui peuvent rallonger, mettre une couche supplémentaire pour faire fonctionner l'entreprise, lui permettre d'acheter les biens capitaux. Mais il y a une deuxième solution, au-delà de ces fonds propres, de l'argent des actionnaires, quelque part, vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, trouver de l'argent ailleurs, auprès des banques, notamment. Cette fois-ci, vous allez réaliser des emprunts, du crédit. Vous allez devoir emprunter, donc ça peut passer soit par du crédit bancaire tout simple, soit aussi par ce qu'on appelle des prêts obligataires. C'est un titre financier qui ressemble à un crédit bancaire, seulement on peut le vendre sur les marchés. Et donc vous avez cette deuxième possibilité. Mais quel que soit le choix retenu pour trouver cet argent, qui va vous permettre d'acheter vos machines, que ce soit de l'argent des actionnaires ou l'argent des créanciers, des banquiers, vous devez inciter ces gens à vous donner de l'argent pour pouvoir acheter vos machines. Et inciter ces gens à vous prêter de l'argent, ça passe par la rémunération de ce prêt d'argent. Alors cette rémunération, ça a deux noms différents selon les deux statuts que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour les actionnaires, la rémunération de l'actionnaire, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc on verse des dividendes en fonction de la détention d'actions. Pour les créanciers, pour les banques, ça passe par le versement d'intérêts. Donc on verse des intérêts, l'entreprise verse des intérêts à ses apporteurs de capitaux de prêt.
Donc ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'en 2013, il y a 1000 milliards de dividendes qui ont été versés sur cette planète aux plus grandes entreprises, dans les plus grandes entreprises, c'est ça les dividendes, donc c'est cet argent qui a été donné aux actionnaires en échange de leur joyeuse contribution au capital d'entreprise.
Voilà, alors en plus, dans ce qu'on appelle le coût financier du capital, il faut ajouter à ces dividendes la deuxième partie que j'évoquais tout à l'heure, les intérêts, qui sont eux versés donc aux créanciers, c'est principalement des banques, mais ça peut aussi être des détenteurs d'obligations.
D'accord.
Donc vous devez aussi ajouter ça. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut aussi un peu dégrossir. Là, on grossit le trait sur le coût du capital en rajoutant les intérêts versés aux créanciers, mais vous devez dégrossir ce coût du capital des intérêts et des dividendes qui sont reçus par les entreprises, puisque les entreprises elles-mêmes vont acheter des actions sur les marchés financiers. Alors c'est un peu un dévoiement de leur fonction première. Utiliser de l'argent pour acheter des actions, c'est pas le rôle d'une entreprise normalement. Une entreprise, elle doit produire quelque chose. Mais avec l'évolution du capitalisme ces dernières années, les entreprises se sont aussi mises à acheter des actifs financiers sur les marchés, à prêter aussi. Donc les entreprises touchent des intérêts, touchent des dividendes. Et donc vous devez essayer de faire la part des choses. Vous prenez l'ensemble des intérêts et des dividendes qui sont versés par les entreprises, donc ce qui sort de l'entreprise, et vous enlevez à cette somme les intérêts et les dividendes qui sont reçus par les entreprises. Ça, ça vous donne une première approximation, du coût financier total du capital.
D'accord, ok.
Alors, ensuite, ce coût financier total du capital, on doit lui faire subir un deuxième allègement, quelque part, puisque dans tous ces revenus versés, il y a une partie que l'on pourrait considérer légitime au sens où il y a un service qui est rendu à l'entreprise par ceux qui prêtent de l'argent. Ce service, c'est tout simplement que voilà, vous prêtez de l'argent. Donc il faut rémunérer ce service. Alors,
ça peut se débattre. je pense que tous les auditeurs ne seront pas d'accord avec cette idée, mais on va admettre pour la démonstration qu'effectivement, un banquier a besoin d'être rémunéré pour le travail qu'il fait, de prise en charge de risque, etc.
Oui, alors bon, pour rassurer tout le monde assez rapidement, cette prise en charge du risque, c'est quasiment rien. Alors on a pu la mesurer au travers de chiffres divers et variés, mais notamment des chiffres de la Banque de France, qu'on ne pourra pas accuser de gauchisme primaire. Les chiffres de la Banque de France nous disent que la partie du capital qui est perdue pour cause de faillite, donc cette prise de risque finalement, ce qui est censé compenser la prise de risque, la partie du capital qui est perdue pendant une année à cause des faillites, c'est 0,5%. Voilà ce que c'est que la prise de risque. Alors, c'est maigre,
oui.
C'est maigre, comparé à ce qu'on entend parler
sur
les 15% de rendement exigé. Alors, 0,5% de prise de risque, face à 15% de rémunération, il y a quand même un sacré décalage entre les deux. Alors, c'est ce décalage qu'on essaye de mesurer, alors par d'autres chemins un peu plus compliqués, hein, mais c'est ce décalage qu'on essaye de mesurer entre le coût légitime du capital lié à cette fonction économique de supporter une partie du risque, de transformer de l'épargne liquide qui est un peu éparpillée partout dans l'économie en prêts qu'on peut destiner aux entreprises. Donc ces deux fonctions-là qu'on essaye de prendre en compte et on va essayer de dégrossir donc ces deux éléments-là à partir du coût financier total du capital. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Et là justement, donc hier soir pendant la conférence, vous expliquiez, vous aviez des chiffres assez ronds, donc ils sont pratiques pour ça, c'est que le PIB, la somme de toutes les valeurs ajoutées, c'est environ 1000 milliards.
Alors, c'est pas le PIB. Les 1000 milliards en question, ce chiffre rond, c'est la valeur ajoutée, donc l'activité ajoutée par les entreprises, uniquement les entreprises non financières.
D'accord, ok.
On exclut de ce 1000 milliards d'euros de PIB, oui, je vais y arriver. Fin de journée, c'est un peu compliqué. Donc 1000 milliards d'euros de PIB, ça représente uniquement la production des sociétés non financières. Si vous voulez arriver au PIB total de l'économie française, vous devez rajouter la valeur ajoutée des sociétés financières, donc des banques, et aussi la valeur ajoutée du gouvernement.
Oui, d'accord.
Et donc, enfin, de l'État, des administrations publiques. Donc on arriverait plutôt au PIB français à 2000 milliards.
D'accord.
Voilà, donc le 1000 milliards, nous, notre étude s'est concentrée sur ces sociétés non financières, sur ces entreprises qui n'ont pas vocation à être sur les marchés financiers.
Donc,
de par leur nature. Ce sont des entreprises qui doivent produire des biens et des services marchands, mais pas des biens et des services financiers.
Bon, bien
on s'intéresse
sûr,
aux non-financiers.
Ça, c'est la théorie, puisque tu disais juste à l'instant que ces entreprises elles-mêmes vont sur les marchés, etc.
Elles se sont financiarisées, voilà, par la force des choses.
Et alors, par la force des choses, on va y revenir après sur justement d'où vient la force des choses. Mais donc, sur ces 1000 milliards de valeur ajoutée des entreprises non financières, la moitié permet de payer les salaires et les cotisations sociales.
Voilà, c'est ça.
Y a 20% qui permet de financer l'investissement.
C'est ça.
Ça me paraît beaucoup quand même, parce que le taux d'investissement, il est assez faible. Mais bon, il y en a quand même 20% qui est réinvesti pour les machines, pour le développement technologique, voilà. Et il y en a, donc sur 1000 milliards, encore 160 milliards qui sont pour l'amortissement. Donc alors, là, c'est pour remplacer les machines.
C'est pas exactement ça. Les 160 milliards font partie des 200 milliards
d'investissement. Ah, d'accord, ok.
Les 160 milliards, c'est la partie de l'investissement qui sert à remplacer ces anciennes machines. Ce qui veut dire que...
L'investissement réel, en fait, c'est juste 40 milliards.
C'est ça. C'est
ce
uniquement
qui est ridicule.
Oui, bon, c'est quand même des milliards d'euros, mais c'est pas si important que ça, effectivement.
D'accord.
Et c'est surtout très faible aujourd'hui par rapport à ce que ça avait pu être hier.
Et enfin, on arrive aux dividendes. Alors, votre chiffre, c'est 132 milliards. Donc ça, ce serait le coût du capital. Et si on enlève les fameux 0,5%,
le coût légitime, on va dire. On va l'appeler comme ça.
On arrive à, en fait, 100 milliards de surcoût au total. C'est-à-dire qu'en gros, sur 1000 milliards de valeurs ajoutées produites par les entreprises non financières, on en a 10% qui ne finance rien, qui n'a aucune justification économique, sinon l'enrichissement. Sinon, est-ce que je résume bien ?
C'est ça. Sinon, on dirait plutôt l'organisation du système financier. Ce qui occasionne ces versements donc, de 100 milliards d'euros d'entreprises, par les entreprises aux actionnaires et aux prêteurs, ça n'est ni plus ni moins que l'extraction d'une rente qui n'a pas de légitimité économique. Et donc, on peut ensuite s'amuser, et c'est ce qu'on a fait dans notre rapport d'étude.
Vous avez trop le dos jeu quand même. Hein.
Oui, les économistes sont des gens un peu étranges. Ils aiment bien les paradoxes. Donc, le petit jeu qu'on s'est amusé à faire entre nous, c'est de rapporter ce surcoût du capital, cette partie illégitime de la rémunération financière versée par les entreprises aux apporteurs de capitaux. On a rapporté cette partie-là au coût économique réel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le coût d'acquisition des machines, des infrastructures, des logiciels, des brevets, etc. Et si on fait ce ratio-là entre la partie qui est versée en surplus aux actionnaires et aux prêteurs et le coût effectif du capital productif, on arrive à un chiffre de 50%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce 50% ? Pour vous donner un exemple, pour que tout le monde puisse comprendre à peu près l'ampleur de ce que je suis en train de raconter. Quand on achète une machine 100 euros, vous payez cette machine 100 euros à votre fournisseur de machines.
Jusque-là, ça va.
Ça, c'est le coût économique du capital. Mais en plus de ça, vous allez devoir payer 50 euros, non pas à votre fournisseur de machines, mais aux apporteurs de capitaux, que ce soit vos actionnaires ou vos prêteurs. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous achetez une machine 100 euros, le prix total qui va être payé par l'entreprise, c'est 150 euros.
En gros, il y a la moitié de tout ce qu'une entreprise achète... qui vient en plus du prix initial, c'est ça.
C'est un surcoût.
C'est un surcoût. C'est énorme.
Vous payez 1,5 fois ce que vous achetez en termes de capital productif. C'est pas étonnant que le capitalisme ne marche pas très bien ces derniers temps.
Et justement, c'est ce que rappelait Mireille dans le son qu'on a passé avant, c'est que ça s'est fait progressivement depuis les années 70 avec le néolibéralisme, des lois, la déréglementation, l'ouverture à l'Europe libérale, et tout ce processus amène qu'aujourd'hui, effectivement, on a ce surcoût du capital énorme, quoi.
Oui, et l'évolution est particulièrement frappante là aussi, puisqu'on a pu quantifier, on a réussi à remonter dans les données historiques, et on a essayé de quantifier ce surcoût du capital, hein, toujours la même définition, mais dans les 30 Glorieuses. Et si on compare la période des 30 Glorieuses, hein, sans vouloir les glorifier excessivement, au stade du capitalisme actuel, la multiplication du surcoût du capital, vous devez prendre en compte un facteur 3. Le surcoût du capital aujourd'hui est 3 fois plus important que ce qu'il était dans les 30 Glorieuses. Donc la facture s'est très fortement alourdie pour les entreprises. Le coût d'un investissement est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'hier. On a diminué, alors pour faire une image peut-être, si vous remplacez investissement par yaourt, eh bien vous allez acheter vos yaourts beaucoup plus cher qu'avant, et en plus de ça, la composition du yaourt, il y a moins de yaourt à l'intérieur de votre pot. Donc vous faites doublement avoir, vous payez plus cher pour un service dégradé. Voilà ce qui s'est passé concrètement dans le capitalisme actuel.
C'est drôle que tu dises ça, parce que moi j'ai justement une petite chanson là pour faire une petite pause, et la chanson qui s'appelle « La complainte du banquier ». Bah oui, parce que le banquier, il a quand même tout un tas de petites misères. Allez, « La complainte du banquier » sur Canal Sud.
Je vous prie de m'écouter. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Je ne suis qu'un pauvre petit banquier qui a une complainte à déposer. C'est plutôt noir que blanc. Je passe mon temps encaissé, les sourires chaînés et les billets au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus. De plus en plus ma déprime se crédite. Je brasse énormément d'argent qui n'est pas pour moi, évidemment. Ma vie n'est qu'un compte courant. Je le cours après tout le temps. Je suis là aussi pour vous rappeler. Je suis là aussi pour vous rappeler que vous avez oublié de payer. Vous êtes bel et bien ruiné, que demain chez vous c'est les huissiers. Au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus. De plus en plus ma déprime se crédite. Et passe des tas de clients, des bien gavés, des sans argent. Ce dernier, le plus discret, se cachant presque pour retirer. Et le bien gavé qui ne se gêne pas, criant bien fort qu'il a les poches pleines de terrain. Par-ci par-là, qui se paye un bateau la semaine prochaine. J'entends la crise par-ci, par-là, j'entends la crise à tout va. J'entends la crise, et c'est pas ma faute à moi. J'entends la crise, mais putain, lâchez-moi avec ça. Lâchez-moi avec ça.
Les pauvres petits banquiers, ah là là, la complainte du banquier sur Canal Sud. On est avec Thomas Dallyry et on parle du coût du capital. On vient de retracer un peu théoriquement qu'est-ce que ça représente, ce coût du capital, comment ça se calcule, etc. Moi, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est plutôt une remarque, c'est quand on voit un peu ce qui s'est passé à Molex, à Toulouse, ce qui se passe à Goodyear, on voit que ces exigences de dividendes, justement, qui amènent justement ces dividendes extraordinaires, mais ils ont été exigés, ils ont été demandés par les actionnaires, et ben, elles amènent des entreprises qui marchent très bien, Molex, Goodyear, PSA, Florange, ArcelorMittal, elles amènent ces entreprises à fermer. Parce que une entreprise industrielle, elle peut pas suivre, elle peut pas produire à plus 20, plus 30%, ce serait complètement dingue, ce serait exponentiel. Et donc, les conséquences réelles de ce coût du capital, c'est qu'en fait, ça détruit les emplois et ça détruit le tissu du travail. Et donc, non seulement le coût du capital, en fait, il pioche 10% partout et même 50%, tu dis, pour les investissements des entreprises, mais c'est surtout qu'il attaque le travail. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ?
Oui, bah alors sur les effets de cette élévation du coût du capital, les exigences actionnariales ont bien deux effets distincts. C'est-à-dire que vous avez dans un premier temps un côté modification de la répartition des richesses. Pour verser des dividendes, quelque part, on pioche dans la poche des salariés, donc les salaires perdent en pouvoir d'achat, les salaires sont maintenus plus bas pour pouvoir satisfaire les exigences de rendement des actionnaires. Mais vous avez un deuxième effet qui est encore plus brutal, encore plus important, c'est que finalement, si vous devez faire du 15% de rentabilité pour satisfaire vos actionnaires, des projets d'investissement, des projets d'entreprise qui passent la barre des 15% de rentabilité, il n'y en a pas des masses. Et donc, vous avez une sélection très forte qui s'opère sur les entreprises viables du point de vue de cette exigence de rentabilité. Il n'y en a pas beaucoup, donc on est obligé de se recentrer sur des secteurs très précis, très particuliers. Et les autres secteurs, on les abandonne. Donc on ferme des boîtes, tout simplement. On va licencier. On va surtout, en ce qui nous concerne, arrêter d'investir. Le capital, je l'ai dit tout à l'heure, coûte plus cher, donc on arrête d'investir, on arrête d'accumuler des machines, et normalement, dans le capitalisme, l'investissement, c'est ce qui crée les emplois de demain. Donc ça, on voulait revenir sur le célèbre théorème de Schmitt. L'investissement a quand même tendance à créer des emplois dans l'avenir, normalement. S'il n'y a pas d'investissement, il y a un risque de perdre des emplois.
C'était pas Smith
théorème de Schmitt.
Ah, Schmitt, d'accord.
Smith, c'est quelqu'un d'autre, mais
il n'est
pas parfaitement visible tout de suite.
Mais justement, tu parlais de ça. À Toulouse, là, on a Airbus. Les camarades, syndicalistes, nous ont annoncé qu'en fait, Airbus prévoyait de ne pas effectivement investir pendant les prochaines années. Mmh. Et donc, ça correspond tout à fait à ce que tu dis. C'est que non seulement ils disent que les boîtes ne marchent pas, mais en plus, ils réduisent leurs investissements. C'est complètement dingue.
On a un capitalisme de rentier, c'est-à-dire que le capitalisme a arrêté d'entreprendre, il se contente de récolter les fruits de ce qu'il a fait par le passé. Et donc on va prendre les profits sans préparer l'avenir, on prend les profits tout de suite, on vend ce qu'on a à vendre avec la technologie qu'on a à vendre, mais on ne prépare plus l'avenir, on n'essaye pas de... Parce que l'avenir est risqué, prendre des risques, ça coûte de l'argent. Et on n'a pas envie de dépenser de l'argent qui pourrait ne pas nous rapporter. On se concentre sur ce qu'on sait faire, on fabrique des avions, on fabrique des voitures, ça nous rapporte notre petit pécule et on se contente de ça.
Mais ce qui est fou, c'est que les maîtres des forges au 19e siècle, ils gagnaient quand même pas mal leur vie, quoi, déjà. Ils étaient déjà pas mal bien lotis dans les mines, quand tu lis Zola, bon, les capitalistes, ils avaient de quoi faire quand même à l'époque. Et justement, comment ça se fait que déjà à l'époque, ils exploitaient les travailleurs, et que là aujourd'hui, non seulement ils exploitent les travailleurs, mais en plus, ils vont en tirer un bénéfice en capital encore plus par les actions, etc.
Bah alors, sans vouloir...
Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois, mais sans vouloir faire de la philosophie ici comportementale des patrons... Il y a eu une modification effectivement très nette du point de vue de l'exploitation capitaliste. Auparavant, l'exploitation capitaliste avait, encore une fois, je vais employer un mot qui pourrait faire hurler les auditeurs, l'exploitation capitaliste avait une forme de légitimité donnée par l'investissement. C'est-à-dire que les salariés aujourd'hui se faisaient exploiter, aujourd'hui je me fais exploiter, mais comme ça va dégager des profits, les profits pourront servir à être réinvestis, ce qui créera de l'emploi pour plus de personnes demain.
On dirait l'Europe sociale.
Oui, certes. Mais donc, aussi, ça ne vend pas forcément beaucoup de rêves, hein, cette histoire.
Mais si, c'est qu'à le dire.
Si on compare cette exploitation donc, à l'ancienne, à l'exploitation actuelle, on voit qu'on a été encore plus loin dans l'aberration, dans l'injustice. Puisque aujourd'hui, l'exploitation, elle n'a plus cet argument de dire « demain sera meilleur ». Pour la masse des salariés, avec les investissements et l'emploi. Aujourd'hui, l'exploitation, elle n'a comme ressort que l'enrichissement de quelques-uns, l'enrichissement des actionnaires. Donc c'est un capitalisme qui est devenu profondément inégalitaire. Est-ce que ça veut dire que les patrons d'aujourd'hui sont plus individualistes que les patrons d'hier, qui avaient quand même un certain sens du collectif ? Ça, c'est dans cette direction-là où je me disais, je ne vais pas trop me prononcer sur la philosophie comportementale des capitalistes.
Oui, mais pardon de faire mon bas marxiste. Oui, alors, je précise pour les auditeurs qu'ici, effectivement, on a invité un keynésien ce soir. On a fait une
coming out
idéologique, voilà. Même si cette radio, effectivement, c'est plus marxiste et même parfois plus que ça. Je veux dire... Effectivement, dans la théorie marxiste, le fait que les capitalistes s'engraissent sur le dos des travailleurs, ça fait belle lurette. Mais ce qui est fou, c'est que des keynésiens qui étaient un peu plus modérés, on va dire, nous disent qu'aujourd'hui, en fait, ils nous disent la même chose, sauf que ça se passe dans une autre phase du capitalisme.
Oui, mais au-delà des économistes académiques, des keynésiens, les chefs d'entreprise eux-mêmes, la direction financière de certaines entreprises perçoivent l'absurdité du phénomène. En discutant avec des chefs d'entreprise dans des boîtes du coin, vous vous rendrez compte que la situation est devenue intolérable. On a vraiment maintenant des managers, donc la direction des entreprises, qui est capable de manifester, de sortir dans la rue pour dénoncer les abus de cette extraction de profits, de dividendes, au bénéfice de quelques-uns, au bénéfice des actionnaires. Donc c'est vraiment un tournant dans la mobilisation. On a une possibilité de voir venir dans les mois, dans les années à venir peut-être, un retournement dans les alliances de classe traditionnelles. Le management pourrait revenir s'allier avec les travailleurs.
Les cols blancs et les cols bleus tous ensemble dans la rue, sous le drapeau rouge.
Voilà, pour combattre, alors ce que c'est, si vous me permettez de citer Keynes, pour combattre ce que Keynes avait labellisé pour arriver à l'euthanasie des rentiers. Alors, certains seraient tentés de dire qu'il faut effectivement euthanasier physiquement les rentiers. Ce que Keynes avait en tête, c'était euthanasier la rente, pour essayer de libérer l'entreprise, l'économie, la création de richesses.
Et alors, on a beaucoup parlé du coût du capital, de ses conséquences. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment on le réduit, ce coût du capital. Parce qu'on entend partout, comment faire réduire le coût du travail à 1000 recettes? Comment réduire le coût du capital? S'il est si énorme, s'il est si injuste et s'il est aussi dégueulasse, comment on le réduit?
Alors, le pouvoir de la finance, faut se demander d'où il vient. Le pouvoir de la finance vient de ce qu'on appelle la liquidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? C'est un chantage. C'est un chantage à « si vous ne satisfaisez pas mes exigences aujourd'hui, je vais aller voir dans une autre entreprise et je vais vous mettre en difficulté ». Donc si vous voulez jouer sur le coût du capital, baisser le coût du capital, vous devez jouer sur cette capacité qu'ont les actionnaires, les investisseurs, à passer d'une entreprise à l'autre. Vous devez les immobiliser, les rendre illiquides. Alors comment ça passe? Là aussi, ça ne vend pas forcément beaucoup de rêves, c'est un peu technique, mais c'est uniquement en créant, en obligeant les actionnaires à avoir leur action pendant un temps long. Donc, soit vous obligez réglementairement les actionnaires à avoir leurs actions pendant un temps long, soit il y a une autre possibilité, c'est tout simplement de dire on supprime la bourse, on supprime les actionnaires, et on revient à un financement des entreprises basé uniquement sur le crédit bancaire. Ça serait une autre manière de sortir de ce coût du capital.
Parce qu'il y a d'autres alternatives aussi, c'est que les travailleurs eux-mêmes reprennent en main la possession des outils de production, et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a plus d'actionnaires et plus de management non plus, ce qui est une solution qui fonctionne aussi.
Bien sûr, ça c'est la solution, je vois où je suis arrivé, c'est bien sûr une solution plus marxiste que keynésienne, et les keynésiens sont parfaitement d'accord pour œuvrer là-dessus. Le seul point de détail, c'est on est d'accord sur la direction à adopter, après c'est sur la procédure, comment concrètement on arrive à mettre en place cette chose-là. Le point de vue des keynésiens, c'est que stratégiquement, c'est peut-être davantage le moment d'essayer d'avoir une réglementation financière que de tout de suite lancer des mots d'ordre qui pourraient justement fragiliser cette alliance de classe qui pourrait arriver entre managers et travailleurs.
Et du coup, est-ce que là, aujourd'hui, il y a des propositions politiques concrètes, des propositions de loi, des choses qui pourraient aller dans ce sens? Alors j'imagine que le PCF s'est porté sur la campagne coût du capital, la CGT s'y met, le parti de gauche s'y met, ça commence à remuer un peu à la gauche de la gauche, mais est-ce qu'il y a, un aboutissement à ça qui arrive, avec aussi des mots d'ordre dans les cortèges syndicaux et militants?
Bah, le grand problème, effectivement, derrière, c'est de comment on va appliquer ces mesures. On est d'accord sur le constat. Il y a beaucoup de personnes qui vont reconnaître le surcoût du capital qui est devenu trop élevé. Et donc, comment on traduit cette chose-là en acte politique, en réforme politique? Dans un premier temps, la stratégie des partis politiques, des syndicats, c'est déjà de répandre le constat, de susciter un peu d'indignation. Et ensuite, de voir comment on peut agir de concert, comment on peut faire converger les luttes sur une mesure politique qui pourra être un truc donc un peu technique dont je parlais tout à l'heure, de nouveaux types d'actifs financiers, mais alors donc ça va être une mesure un peu social-démocrate, on va dire. Ça peut être une réforme, une vraie réforme bancaire cette fois-ci, au lieu d'essayer de toiletter gentiment les statuts des banques françaises, rentrer dans l'art de ces institutions et couper sérieusement les activités qui sont utiles à l'économie des activités qui ne sont pas utiles à l'économie. Donc, il y a beaucoup de pistes à proposer. Ensuite, la question, c'est comment va-t-on réussir à les faire adopter en politique? Et c'est là où, malheureusement, ces derniers temps, la faisabilité de la chose ne paraît pas vraiment à l'ordre du jour dans l'agenda gouvernemental.
Mais c'est pour ça justement qu'il y a eu une manifestation à Marseille, et puis là il y en aura une samedi à Toulouse, alors je rappelle 10h30 place Arnaud Bernard, départ, une manifestation donc où justement l'un des mots d'ordre c'est lutter contre le coût du capital. Alors ça paraît théorique, mais en gros c'est pour des meilleurs salaires, pour la protection sociale qui est en train d'être démantelée aussi.
Pour l'emploi.
Pour l'emploi, voilà. Comme mot de la fin, j'aimerais te demander, toi, comment, comme économiste, tu arrives à t'engager dans la lutte justement pour ces idées-là? Parce qu'on sait que chez les économistes, il y a un certain consensus idéologique dans le pays, plutôt néolibéral que autre chose. Et donc comment être un keynésien aujourd'hui? On s'en sort et on arrive à mener des petites batailles comme ça dans université?
Bah déjà, on choisit ses amis, on choisit ses universités d'accueil, puisque la pensée keynésienne ou la pensée marxiste ne peut pas s'épanouir partout en France. Hein, on est un peu bâillonné dans la plupart des universités, donc on est obligé de se regrouper par endroits pour essayer ensuite de s'engager, parce que bien sûr, l'économiste n'est pas un intellectuel qui se balade en réfléchissant dans une forêt. C'est quelqu'un qui fait partie de la cité, qui a vocation...
Ça fait du bien, parfois.
Certains, oui, ils devraient peut-être s'aérer un peu plus, mais l'économiste est quand même ce qu'on appelle un... Il fait ce qu'on appelle de l'économie politique, c'est-à-dire qu'il a vocation à s'engager sur le terrain politique. Il a vocation à agir sur la réalité économique, à la transformer. Donc, pour moi, ça fait partie d'une continuité de la manière dont je conçois le métier d'économiste, si aussi cruel qu'il puisse être.
Eh bien, écoute, merci Thomas. Donc, c'était Thomas Daléry de l'université Dunkerque, l'université du littoral Côte d'Opale.
C'est plus fleuri.
C'est plus fleuri. Merci donc pour nous avoir informé sur le coût du capital. On suivra la question sur Canal Sud régulièrement, les avancées du projet, des mobilisations aussi. Merci à toi. Et
merci
puis,
pour l'invitation.
Écoute, à très bientôt.
À très bientôt.
Merci et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés sur Canal Sud. Tout de suite, on laisse la place à la centrifugeuse, c'est ça? Et nous, on se retrouve demain midi pour le magazine. Bonne soirée à tous et à toutes.